C'est l'aventure. Ici Robert Blondin.
Comment j'ai connu Roxane Beauchamp, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que je l'ai connue, puis j'ai toujours bien aimé cette femme qui a pas tout à fait mon âge, mais presque, et qui a vécu avec intensité, qui continue à vivre avec intensité. Roxane, on va commencer ça fort.
Hein? Oui, bon.
C'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, toi?
Mon Dieu, mes forces.
Ah oui?
Mes forces. C'est d'avoir la capacité de m'adapter. Probablement, la vie m'a...
Qui est la grande caractéristique des gens heureux, hein?
Oui,
la faculté de s'adapter.
La faculté de s'adapter.
D'adaptabilité.
D'adaptabilité, oui, monsieur. Et puis, mes faiblesses, ma grande faiblesse, c'est de ne pas croire en moi. Et de douter continuellement et... Ça a pu éteindre beaucoup de feux que j'ai la capacité d'allumer, mais que j'ai aussi la capacité d'éteindre assez rapidement.
Ça s'appelle être consciente, ça?
Une forme de conscience, mais une forme de conscience qui peut être destructrice aussi. Le fait de porter des projets et puis de ne pas avoir la capacité d'y croire, fait que, des fois, ben t'es éteint, mais il aurait pu se rendre.
Alors, il y a beaucoup de projets comme ça qui sont pas rendus, puis que tu regrettes, tu aurais aimé ça que ça se passe comme il faut?
Oui. Entre autres, mon passage à Radio-Québec, où beaucoup de gens ont cru en moi, et où, comme moi, je ne croyais pas en moi, ben j'allume les feux, je les éteins à mesure. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'essaie de grandir maintenant.
Qu'est-ce que tu faisais à Radio-Québec?
J'étais secrétaire de production. Non, j'ai été secrétaire des producteurs, pour commencer. Puis les réalisateurs, rapidement, sont venus me chercher pour aller comme secrétaire de production. Et ils voulaient m'amener aussi au niveau d'assistante à la production. Je me suis éteinte au niveau de la possibilité d'aller assistante à la production. Quand je regarde ça avec le recul, je me rends compte que oui, j'avais la capacité, mais si tu me parles de ma grande faiblesse, ben c'est ça. Je me suis butée
à... Est-ce que ça s'est amélioré en vieillissant, à mesure que tu y réfléchissais à cet handicap-là, si on veut?
Oui et non, parce que j'étais allée décrocher un emploi qui était... J'étais chargée de bureau dans un syndicat. J'ai milité dans les années 70. Et j'ai trouvé là encore le taux de me mettre sur la voie d'à côté. J'ai été malheureuse dans cet emploi-là, mais en plus, je me suis aussi, à mon avis, auto-détruite. J'ai pas été capable de me défendre face à des adversités. Par contre, après, quand j'ai pris ma retraite et tout ça, j'ai organisé un voyage à Prague pour ma chorale. Et ça, j'étais capable de le mener à bien. Et ça, comme s'il y avait quelque chose qui s'était intérieurement enlevé.
D'où ça venait, cette espèce de non-estime de soi, de ne pas mener des projets?
C'est mon éducation.
Ton éducation.
Oui, oui. Ça vient de là, oui. Et continuellement, il faut que continuellement encore, il faut que je fasse attention pour ne pas tomber dans le... Et tu sais, comme tu dis au début, tu me connais, j'ai fait la dépression, une dépression très grave, liée à tout ça, tu sais.
Parle-moi un peu de la dépression. Tout le monde ne vit pas ça. Beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est.
Bien, la dépression, on ne peut pas deviner ce que c'est. Au début, là, je me souviens que je dormais tout le temps. Et je me souviens que j'avais un chat. Et pour il fallait que je le nourrisse. Hein. Et pour aller le nourrir, ça me prenait 3 heures dans ma tête avant d'avoir la capacité de me lever. Tout était une montagne.
Est-ce que je peux te demander d'enlever ton collier sur le micro, juste parce qu'on on l'entend se promener?
C'est fatiguant,
voilà,
ça.
C'est tout.
Oui.
OK, ouais, donc, de chat, 3 heures pour aller le nourrir.
C'était avant d'avoir la capacité de me lever pour nourrir le chat. Et j'ai fait quelque chose d'assez épouvantable. En tout cas, j'ai pris le chat, je l'ai mis dans la ruelle. J'étais plus capable. Ça, c'était les débuts, c'était très difficile. C'est physiquement, hein? C'est physique. Tu peux plus te lever, tu peux plus te faire à manger, tu peux plus te... Je me lavais, je me peignais. Mais tout était effrayant. Et ce qui a été épouvantable, c'est que j'ai eu un médecin qui me retournait au travail à tous les 2 mois. Ce qui fait que je tombais en récidive tout le temps. Et ce qui fait que cet emploi-là, qui était quand même... j'avais l'emploi le meilleur au Canada, je pense. Je travaillais 4 jours/semaine, je faisais 50 000 par année.
Au syndicat, ça.
Au syndicat. Et ce qui fait que les récidives ont fait qu'ils ont réussi à me mettre à la porte parce que j'avais un patron qui comprenait pas la chose. Ça n'a pas été compris. Ça se comprenait. C'était dans les années, dans les années 90, peut-être 97, 98, même si c'était un syndicat, c'était pas compris. Et on était syndiqués à notre syndicat. Ça fait que mon patron était...
Un patron.
Oui, était un patron. Puis mon délégué syndical, ça se défendait pas. Mais
est-ce que c'est arrivé, cette dépression-là, subitement, à la suite d'un événement?
Ou... Oui, c'était quand je me suis séparée de Jean-Pierre Lavoie.
Qui était ton conjoint de
l'époque. Qui était mon conjoint de l'époque. Mais probablement que c'est probablement pas ça, parce qu'on a envie des séparations. Mais ça m'a probablement fait retomber dans l'abandon qui est le thème de ma vie. T'sais? Alors, je suis retombée, d'accord, Jean-Pierre, il fallait qu'il parte. Mais moi, ça m'a fait vivre, tu sais, l'abandon total. Et c'est très difficile de garder les gens autour de toi aussi. Je peux comprendre, c'est lourd. Je te dis pas que tout le monde est parti, mais...
Il reste pas grand monde autour. Hein?
Il reste pas grand monde autour. Et j'ai réussi à me remettre de ça avec un livre de Servan Schreiber. Qui donnait 7 solutions de sortir de la dépression avec des moyens naturels, si on veut. Marcher, faire du yoga, bon, enfin.
T'en souviens-tu des autres moyens?
Prendre l'oméga 3. Il y a 7 choses qu'il disait.
Mais t'as suivi ça?
J'ai suivi ça. J'étais sur des antidépresseurs qui ne m'allaient pas du tout. Et quand je disais au médecin que ça ne m'allait pas, il doublait la dose. Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, à un moment donné, j'ai lu ce livre-là et ça m'a pris 5 mois, moi, toute seule, à abandonner l'antidépresseur. En prenant une pilule aux 2 jours, une pilule. Dès que j'avais quelque chose dans la tête qui venait, là je prenais une pilule. Et là, j'allais marcher, j'habitais à Inverness. Dans les bois francs. Puis j'allais marcher sur le rang en plein hiver, là, même la nuit, pour m'oxygéner le cerveau. Et je marchais dans le froid. Il me fallait du froid. Et puis, j'ai réussi à la fin à ouvrir la capsule, prendre juste des graines. Et après ça, je suis passée à l'oméga 3 et je peux te dire que je n'ai plus jamais touché à un antidépresseur. Ça n'est pas vraiment la solution. Mais je parle pour moi. Pour moi, ça n'allait pas. Mais ça a été une période très difficile et ça ne dure pas 2 mois, là. Ça dure, moi, je dis que ça a duré 5 ans.
Pas cinq ans,
là, couché dans mon lit, là, ouais. Puis... mais avant que je laisse les antidépresseurs, que je prenne les oméga 3, que je prenne la décision de quitter Inverness, que j'étais allée là pour rien, mais enfin, pas pour rien, revenir à Montréal, me refaire, retrouver un emploi. Je sais pas si tu comprends, là, tu sais.
Ben oui.
Ouais. Alors, c'était pas, ça n'a pas été intense pendant 5 ans, mais je me suis ramassée à l'hôpital 3 fois parce que je voulais mourir.
Tentative de suicide?
Oui.
Quel moyen tu envisageais?
J'avais des pilules, là, des anxiolytiques.
Mais je prenais pas tout.
C'est ça. Au début, je prenais les antidépresseurs aussi. Mais ça donne rien.
Et tu te rendais à l'hôpital parce que quelqu'un le faisait ou parce que toi, tu décidais que tu voulais aller contre toi-même? Là?
Non, parce que quelqu'un m'appelait ou me trouvait ou je répondais en tous les cas. Oui.
Est-ce que des amis, le peu qui sont restés autour, t'ont vraiment aidé? Si oui, de quelle façon?
Non, c'est moi qui me suis aidée.
Personne?
Ben, c'est-à-dire que j'ai des amis. Écoute, mes amis sont quand même un peu restés là. Il y en a eu. Mais j'avais une grande amie qui m'a. C'était une. Tu connais Monique Lessard? J'avais cette amie-là, là, c'était pour moi, c'était plus important que Jean-Pierre Lavoie. Tu sais. Elle avait un cancer et j'étais en dépression. Ce qui fait que ça a été. Un volcan, elle peut pas comprendre quand tu as un cancer, puis que l'autre a une petite dépression, là, puis qu'il s'écoute. Là. Ça a été la fin de notre amitié. Et ça n'a jamais été possible de reprendre ça. Et ça, c'est encore pour moi douloureux. C'est encore une grande peine, mais il faut que je vive avec. Alors, quand tu vois partir tout ça, pourquoi rester là, tu sais?
Mais là, tu ne le ressens plus du tout, cet état dépressif-là.
Il faut que je fasse attention.
Ah bon? T'es resté vulnérable.
Ah, très, oui. Bien, très, entendons-nous. Je connais les symptômes. Je sais où il ne faut pas aller. C'est pour ça que je marche beaucoup. C'est pour ça que je fais de l'exercice. Et ça aide énormément. Ça, c'est vrai. C'est basique. Mais il y a des endroits où je... Je sens là, que je vais toucher, fait que je me remets à marcher, Bien, je marche tout le temps, là, mais...
C'est quoi ces vulnérabilités-là? Tu peux m'en parler ou pas? Ou t'as mieux pas en parler? Je sais pas.
Ben disons, c'est pas toujours égal dans les amitiés. Ouais. Bon, mettons que quelqu'un te dit... t'as un genre de chicane ou... faut que je fasse attention.
Des affrontements.
Avec mon fils, je ne le vois plus. Alors, quand je tombe dans ça, je pourrais me rendre là, mais ça ne vaut pas la peine.
Est-ce que je peux poser la question pourquoi tu ne vois pas ton fils?
Bien, ça, c'est une longue histoire, mais enfin... il est avec une conjointe qui n'accepte pas que je sois là. Mon fils a eu un cancer. Je m'en suis beaucoup occupée. Je leur ai fait des repas. J'allais leur porter 4-5 repas par semaine. Puis tout ça. Puis j'étais allée à ses premières chimiothérapies et tout ça. Et quand la petite, il y a une deuxième petite fille, était malade, il fallait qu'il s'en vienne chez nous. Et elle ne l'a pas accepté. Et à partir de là, elle a demandé ce que je le vois. En tous les cas, ce qui arrive, c'est que je le vois plus. Alors, il essaie, une fois de temps en temps, il m'envoie un petit texto, quelque chose, mais on ne peut pas se voir. Je pense que lui en est très souffrant et il va en être très souffrant en vieillissant aussi. Mais ça, là, ça, c'est une vulnérabilité dans laquelle il ne faut pas que je tombe. Il faut que je me distance. Il faut que je prenne... parce que sinon, je pourrais fort bien tomber totalement et m'en aller.
L'aventure de Roxane Beauchamp aujourd'hui. Bon, tu nous as parlé de ta dépression, des moments difficiles de ta vie, mais tu as aussi laissé entendre que ça venait peut-être de ta petite enfance, cette vulnérabilité-là. Bon. Alors, parle-nous un peu de ton milieu, d'où tu viens. Quelle sorte de famille tu avais?
J'ai eu une famille. Ma mère avait 4 frères. Son père. C'est un homme politique. qui était député, bon, qui a été le président du comité exécutif avec Camilien Houde dans le temps. Et après ça, il s'est en allé en politique fédérale comme indépendant. Il s'est joint au groupe de Saint-Laurent. Et puis, il a été député dans Sainte-Marie au fédéral jusqu'à temps qu'il y ait la vague de Diefenbaker. Et après ça, cet homme-là a écrit un dictionnaire de synonymes et d'antonymes, le premier dictionnaire québécois de synonymes et d'antonymes.
Ça s'appelait comment?
Hector Dupuis. C'est pour moi l'homme de ma vie. Et s'il n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas passé au travers. Maintenant, ma mère c'était une femme hors de l'ordinaire. Elle est morte en 1956. Moi, je suis née en 1947, donc j'avais 9 ans. À ce moment-là, elle avait sa voiture, sa maison, elle jouait à bourse, elle chantait. Donc, c'était une femme qui était très avant-gardiste.
Libérée, ma foi. Là.
Très libérée, très libérée. Elle a marié un homme qui était 34 ans ou, enfin, 35 ans de plus qu'elle.
C'était une grosse marge.
C'était une grosse marge. Mon père était plus vieux que mon grand-père.
Non.
Oui. Il avait 7 ans de plus que mon grand-père.
Incroyable.
C'était l'organisateur politique de mon grand-père. Donc, aujourd'hui, il serait probablement accusé d'harcèlement sexuel. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui fait qu'elle était enceinte. Et qu'elle s'est mariée le matin de ses 21 ans. Et moi.
Elle attendait d'avoir 21 ans pour avoir un consentement.
Elle attendait d'avoir. Oui.
Ah oui.
Je pense que mon grand-père n'était pas d'accord, mais enfin, quand elle a eu 21 ans, elle s'est mariée. Moi, je suis née. Elle s'est mariée le 21 décembre 1946. Je suis née le 7 mai 1947. Et j'étais très prématurée. Je pesais 2 livres. Et j'ai été comme 5 mois à l'hôpital, dans un incubateur. Donc, ça, l'abandon part de là.
Ça a pu jouer, ça,
Oui, ça a joué. Ça a joué parce que c'est un abandon. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, les parents n'allaient pas bercer les enfants, puis t'étais là, puis c'était autre temps, autre mœurs, là, tu sais. Alors,
comment ça s'est passé, ta toute jeune enfance avec cette mère libérée, avec l'admiration, l'attachement que tu avais pour ton grand-père? Raconte-moi un petit peu cette enfance-là.
Là, ma mère et mon père sont restés ensemble jusqu'à temps que j'ai 4 ans. Mon père avait un hôtel à Montebello. Et puis, je me souviens de l'hôtel quand même, là. On est revenu à Montréal et puis elle s'est séparée. Elle s'est trouvé un emploi qui devait être bien payant parce que elle a pu mener cette vie-là, mais elle était bilingue, était secrétaire dans le temps, mais avec un très gros salaire, là. Et puis, on est allé vivre chez mon grand-père quand même quelques mois avant qu'elle se prenne un appartement.
Ce qui a aidé l'attachement à ton grand-père de vivre chez lui, j'imagine.
Oui, oui, énormément. Et c'est devenu c'était quand même mon tuteur aussi, hein. C'est que ma mère est décédée, j'avais 9 ans, elle avait le cœur malade. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas me porter non plus. Donc, on est venu me chercher grossesse. Et puis, mon grand-père... Étant donné qu'il était député et qu'il était à Ottawa et Montréal et Ottawa et Montréal, m'a placée, ma grand-mère était décédée, m'a placée chez la sœur de ma grand-mère, donc même génération. Et je suis tombée dans une famille, mais mon oncle, ma tante, qui avait dans la cinquantaine. Et elle, c'était... était très, 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 très méchante. Elle était...
On pense à Aurore, l'enfant martyr.
Bien, c'est ça, là. C'est ça que je veux pas avoir l'air, là, mais c'était ça. Elle a magané ses enfants, là, et moi, ça a été assez terrible. Assez que mon cousin, qui était son garçon, mon petit cousin, parce que c'est le cousin de ma mère, a dit, mais coudonc, l'avez-vous pris pour la maganer? Ou... Alors, ce qui fait que à l'école, j'étais jamais bonne, j'étais jamais belle. Elle voulait pas que je sois habillée. C'est ma mère qui m'habillait comme une carte de mode. Elle refusait que je sois habillée, que j'étais jamais allée chez le coiffeur. Quand j'étais dans une famille qui était assez bourgeoise, et mes cousines toutes au cours classique, et toutes super bien habillées, et super bien, alors, je ne peux pas t'exprimer ce que je pouvais vivre. J'en avais des boutons, comme tu dis.
Ouais.
Et puis, j'étais tellement malheureuse. Je voulais mourir, là. Là, je voulais mourir, là. Mais je savais pas comment.
Une adolescence extrêmement difficile.
C'était épouvantable. Et j'ai une amie qui est encore mon amie. Donc, ça fait 63 ans qu'on est amis, qui m'a dit... Va trouver ton grand-père et va lui dire ce que tu vis. Parce que mon grand-père, lui, je le voyais régulièrement, mais il ne savait pas ce que je vivais. Et elle me disait toujours, si tu parles, tu vas t'en aller à l'orphelinat. J'aurais peut-être été mieux à l'orphelinat, mon Dieu. Mais fait que je ne parlais pas. Mais un matin, un 22 décembre, je me souviens, je me vois, il y a une tempête de neige, je pars, je m'en vais chez mon grand-père. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, j'ai tout raconté ce que je vivais depuis 9 ans. Et là, il était dans un... Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi? Mais j'ai dit, elle voulait pas que je t'en parle. Elle voulait pas. Mais là, il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, tu vas aller t'habiller pour Noël. Et puis, moi, je m'en vais chez elle. Et puis, tu t'en vas de là. Et puis, alors, quand je suis revenue à la maison... J'ai dit, je suis allée voir mon grand-père. Elle m'a vu arriver avec plein d'affaires, des souliers, une robe. Elle me criait après, c'était effrayant. Mais j'ai dit, il s'en vient. Mais elle avait peur de mon grand-père. Fait que là, elle s'est calmée un peu.
Là, t'as 15 ans, 14-15 ans?
Là, j'ai 17 ans.
17 ans, là?
Oui, j'ai 17 ans. Et il fallait que je... Vois-tu... Elle me disait toujours, tu peux pas étudier, il faut que tu travailles vite. Dans le fond, elle, ce qu'elle voulait, c'est que je m'en aille au plus sacré. Ce qui est arrivé, c'est que mon grand-père payait pension, puis elle se faisait de l'argent avec ça. Aujourd'hui, je comprends ça. Elle s'est acheté un chalet, elle s'est acheté... Mais ça a été effrayant avec mes oncles. Alors, j'ai eu l'impression que la famille de ma mère... m'a complètement abandonné aussi, ses frères, tu sais. Alors...
C'est vraiment abandon sur abandon sur abandon,
oui,
c'est incroyable.
Oui. Bien, c'est probablement...
Je comprends que ça marque.
C'est probablement ce que j'ai rencontré dans ma vie. Tu comprends? Aujourd'hui, je l'analyse comme ça, parce que je peux pas rester victime si je veux vivre.
Ça, c'est incroyable. Je ne sais pas ces détails-là,
oui.
Mais une adolescence dans ces conditions-là, chez cette marâtre-là, parce
oui.
que c'est de ça qu'il s'agit,
mm-hmm.
comment se développent les sentiments d'amitié, les premiers émois amoureux de l'adolescence?
Bon,
comment tu vis ça
j'en ai eu aucun le temps que j'ai été là.
J'imagine.
Non. Écoute, je faisais dur, là. Excuse-moi. Là. Et puis... j'avais des amis à l'école parce que j'étais drôle et puis je pense que j'étais attachante ou ma grande amie Huguette, que je te dis, ça fait quand même 63 ans qu'on est amis, je te dis pas que là-dedans, il n'y a pas eu des coupures, elle a eu 4 enfants, j'ai eu une autre vie que la sienne, mais aujourd'hui, on est encore de grandes amies, elle habite à Québec, moi à Montréal, mais elle est là encore. Et puis, sa mère voulait pas qu'elle soit amie avec moi, parce que j'étais tellement mal habillée, puis je pouvais pas me laver, Robert. Je pouvais pas me laver une fois par semaine. C'est incroyable. Alors, je sentais pas nécessairement bon. Fait que, tu sais, quand t'as eu une maman, là, qui était une carte de mode, qui t'habillait comme une carte de mode, qui voulait que tu sois toujours très bien, puis que de ta personne. Et Alors, quand je suis partie de là, au mois de... Bon, j'ai vu mon grand-père au mois de décembre. Je suis partie de là au mois de mai. Je me suis en allée vivre au Centre Maria Goretti, où c'était pour des filles, là.
Ouais, oui, mais j'ai connu ça.
Oui, oui, au coin de... près de...
près de l'Université de Montréal.
Oui, c'est ça. Et puis, ben là, mes notes pour le mois de juin ont monté... J'ai eu des notes extraordinaires. Je sortais tout le temps. J'étudiais moins. J'ai eu des notes extraordinaires pour finir mon cours commercial. Et j'ai rencontré mon futur mari tout de suite. Mais là, j'allais rechercher des affaires qui m'avaient tellement manqué.
C'était la frénésie de vivre, là, complète.
Ah oui, 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 oui. Et j'ai tombé dans une famille...
Sa famille à lui.
Sa famille à lui, où elle, sa mère, c'est une femme de théâtre. Fait que, tu sais, je suis tombée dans ce que c'est que j'aimais, à fin de compte. Son mari était pas ça du tout, mais elle travaillait avec Paul Bissonneau, Pierre Patry, Yvon Deschamps. Et c'était une femme flamboyante, un peu comme ma mère. Je te dis pas qu'on s'est jamais affronté, là. On s'est beaucoup affronté, mais on s'est beaucoup aimé. Et je me dis... Heureusement que je suis tombée dans cette famille-là. Parce que ça a été dur. Ça a été dur pour Marcel aussi de m'accepter. Parce que je traînais toute une histoire, puis tu sais, veux pas, des fois tu retombes dedans, puis...
Mais là, son fils est ton amoureux, ton amant.
Oui, on est devenu amant très rapidement.
Et c'est accepté par sa famille que vous soyez non marié, jeune et amant, là.
Oui.
Bon.
Elle, oui. Elle m'a dit, en 1966, elle m'a amenée chez le docteur. Elle m'a dit, tu vas prendre la pilule, parce que moi, 66, 67, parce que moi, je veux pas être grand-mère tout de suite, tu sais. Mais c'était pas toutes les familles dans ces années-là qui voulaient ça. Elle dit, vous me ferez pas croire que vous faites rien, là. Hein? Je le sais. Fait que, bon, à ce moment-là, moi... J'étais allée vivre avec mon grand-père. J'étais partie du Centre Maria Goretti. J'étais allée vivre avec mon grand-père. Mon grand-père est rentré à l'hôpital et en est ressorti 4 mois plus tard, décédé, les pieds par devant, comme on dit. Et puis, donc, j'avais l'appartement, vu que, tu sais, Michel, il restait autant chez nous que
t'avais j'ai... l'appartement de ton grand-père
ben
à
oui,
toi? À
oui,
toi?
Ben oui.
Qui était un appartement conséquent, là.
Oui, oui, un 4,5. Bon, alors, c'est sûr que ma belle-mère est bien... C'est sûr que Michel restait autant chez nous que chez elle. Il était, lui, étudié, il était au cours classique, lui.
Et la relation avec Michel, ce premier grand amour, ça se passait bien? C'était... Il n'y a pas d'accrochage?
Oh, il y a un... Oh, ben, tu oui, 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 oui. Mon Dieu, tu me ramènes loin. Je ne sais pas si on s'aimait. Je ne sais pas vraiment ce que c'était que d'aimer.
On aimait l'amour.
Oui. Je l'admirais beaucoup parce qu'il était au cours classique. Pour moi, c'était ce que je voulais faire. Mais je me souviens que je faisais les travaux avec lui parce que j'adorais ça. Et puis, quand mon grand-père est décédé, j'avais tous les meubles. Donc, quand on s'est mariés, ça ne nous a pas rien coûté. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on... qui ça l'a attiré? Disons que au niveau sexuel, ça marchait très bien. À d'autres niveaux, on s'accrochait plus souvent.
Ça a duré combien de temps?
Ça a duré 14 ans. Mais...
Toujours sans enfant?
On a eu un enfant. Oui, c'est ça. On a eu un enfant. On est parti vivre en France un an dans les échanges France-Québec dans le temps. Lui était enseignant. On est parti en France. Si on avait toujours été en voyage, nous deux, là, on serait encore... Mais là, il est décédé. Mais on serait toujours restés ensemble. Je ne sais pas, il y avait quelque chose quand on était ailleurs, que peut-être que tu peux m'expliquer, mais qui faisait que ça allait bien. Quand on revenait dans la quotidienneté, c'était un peu plus difficile. Et puis lui aussi avait ses démons, et bon, chacun a ses... Et Étienne est né, mon fils, est né en France, pendant qu'on était en France, pendant l'année qu'on
était... Et c'est où
était,
en France?
On était à Mont-de-Marsan, qui est au sud de Bordeaux, près de la côte basque. Là. Quand j'ai vu Biarritz en fin de semaine, c'était notre coin, là, tu sais, oui.
Et la séparation a été difficile?
Oui, parce que moi, tout ce qui est séparation, c'est terrible. Alors, c'était... Je faisais face à l'abandon, mais comme j'avais Étienne, j'avais pas le temps de tomber en dépression. Tu sais, c'est peut-être là que je serais tombée en dépression. Mais avec un enfant, tu peux pas tomber.
Il a quel âge, là, l'enfant?
Il a 6 ans. Oui. Alors, t'as pas le temps de tomber en dépression. Faut que tu t'en occupes. Et puis, il y avait un problème de dyslexie. Alors, ça demande beaucoup, beaucoup au niveau scolaire et tout ça. Et ce qui fait que j'ai continué. C'est ça. Et j'ai pas eu d'autre homme dans ma vie tant qu'Étienne n'est pas parti. J'ai eu des amants, mais pas un homme pour rester avec moi. Là. Parce qu'il prenait beaucoup. Parce qu'il était là, puis c'était important.
L'aventure de Roxane Beauchamp, aventure parfois, souvent douloureuse, hein, finalement. Quand
oui.
on fait le bilan, là,
oui,
ça n'a pas été
oui.
plus drôle qu'on pense. Hein.
Ça n'a pas été plus drôle qu'on pense, mais je ne pense pas qu'il y ait des vies faciles.
Non,
bon,
sûr.
Voilà. Fait qu'à partir de là...
Comment, avec tous ces ce qu'on appelle des rejets,
oui.
bon, ces séparations-là, mm-hmm. ces douloureuses séparations, comment tu as réussi à te reconstruire?
Mon Dieu, comment j'ai réussi à me reconstruire? Ben, d'abord, j'ai fait de la thérapie, hein? Je peux te dire que j'ai
psychologue.
Fait... Oui, psychologue. Des années. Et puis, beaucoup, beaucoup de lectures. Et j'ai développé une spiritualité. Rien de religieux, là. Mais une spiritualité. Parce que je ne vivrais pas... J'aurais pas pu vivre si j'avais pas été au-delà de. Parce que si tu restes dans l'anecdote constante, tu t'en tires pas. Tu sais, il y a quelque chose que Il y a quelque chose qui comment je pourrais dire ça, de tu vas toujours te victimiser, tu vas toujours tomber tu vas toujours tomber dans « c'est pas de ma faute », puis tu vas toujours tomber. Tandis que si tu développes une forme de spiritualité, quelque chose de plus grand, de plus...
Quelle forme de spiritualité auquel tu réfères, là?
C'est que on vit pas les choses pour... Moi, je pense que mon corps va partir, là. Adieu, bonjour, ben, ça me fait plaisir ou presque. Mais l'âme, elle reste là, à mon avis. Et cette âme-là a besoin de grandir. Et si la conscience est dans mon corps présentement, dans mon enveloppe, c'est une chance, la vie. Ça nous permet justement de passer à travers des épreuves qui semblent parfois plus grandes que soi, tu sais. Mais c'est parce que cette âme-là, là, elle a besoin de grandir, de continuer.
Et la tienne a grandi assez pour que tu te considères maintenant à peu près heureuse, malgré les vulnérabilités que tu dois surveiller, non?
Oui, mais mes bonheurs, c'est des petites choses, tu sais. Mes bonheurs, c'est le jardin botanique de Montréal, les bonheurs, c'est... mon Dieu, je me promène beaucoup dans mon quartier, j'habite dans Rosemont. Je trouve que les gens arrangent leur maison. Il y a beaucoup de jeunes familles, ça paraît, c'est beau. Les terrains sont tous bien aménagés, ça me rend heureuse. Ce qui va me rendre heureuse, c'est des concerts. Ce qui va me rendre heureuse, c'est des pièces de théâtre, c'est des lectures, tu sais, des livres que tu n'as plus le goût de... Tu arrives à la fin, puis tu es triste d'être obligé de le fermer, tu sais, puis de le mettre là. C'est des rencontres, c'est ça.
Tu profites de chaque moment agréable, très consciente.
Oui. J'ai pas une grande vie, là, mais j'aime ma vie. Comprends-tu?
Est-ce que tu voyages? Est-ce que tu... à l'occasion?
Moi, j'ai une folie totale. C'est Paris. Et puis, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Je suis allée trois, quatre fois dans les dernières années. J'ai organisé pour ma chorale une tournée en République tchèque. J'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'aime pas les voyages organisés, là. Mais là, j'avais pas le choix, c'est moi qui l'ai. Mais quand même, tu sais. Et puis, grand...
Là, tu viens de renoncer à un mot qui m'importe, c'est le mot chorale.
Oui.
C'est un loisir important, chanter dans une chorale.
Oui, mais là, j'ai laissé, là, mais oui.
Mais le temps que ça a duré, là...
Ah oui, c'est extraordinaire. Ça m'a apporté beaucoup parce que... Une des choses que j'avais probablement de mon père et de ma mère, c'était la musique. Je pense que j'avais un certain talent et j'étais toujours sur le piano chez cette ma tante-là. Là. Et pour être certaine que je m'enlève du piano, elle l'a vendu. Et j'étais partie une fin de semaine chez mon grand-père, je suis revenue, il n'y avait plus de piano. Alors, mais moi, j'étais toujours sur le piano. J'avais une mère qui était musicienne et qui avait un grand talent, là, qui vraiment, là. Et puis, donc, mon grand-père, à la fin de sa vie, m'a dit, je pense qu'on n'aurait pas dû t'enlever la musique. Et c'est sûr que quand j'ai commencé dans la chorale, ne serait-ce que de lire la musique, que de quel langage. Quel langage. Et c'est un plaisir et je reviendrai peut-être, là, mais pour le moment, j'ai pris un congé parce que c'est à Ville-Saint-Laurent et je reviens tard le soir. Enfin, bon.
Question de logistique, surtout.
Oui.
Plus que. T'as pas perdu le goût de chanter?
Pas du tout.
Est-ce que tu écoutes de la musique chez toi?
Plus beaucoup. J'en ai écouté beaucoup, là, mais. Non, pas beaucoup.
C'est quoi tes loisirs chez toi? La télévision, tu as parlé de la lecture, puis tout ça, là, mais les médias, parlons-en de ta relation avec les médias. Qu'est-ce que tu en penses des médias de nos jours?
Oh, ben, je trouve ça difficile parce que j'ai l'impression que, ou bien je ne suis plus le public cible ou. Je comprends pas trop qu'est-ce qui arrive. Autant j'ai pu écouter, j'ai été une adepte de Radio-Canada, ça a été incroyable, autant je suis plus capable. Qu'est-ce que c'est exactement qui fait que j'adhère pas? C'est que je trouve que c'est inintéressant. Je trouve que je retrouve plus d'analyse à mon goût au niveau du téléjournal. J'ai pas besoin d'écouter toute la journée des choses qui m'apportent pas vraiment quelque chose. Je sais pas si tu comprends.
Ah, c'est bien, oui.
Puis, si j'écoute les nouvelles et puis que j'ai...
En fait, les émissions magazines pour parler vraiment des choses, là, celle du matin, t'es incapable.
Hein? Non, je suis plus capable. Je suis plus capable.
C'est la superficialité des sujets, c'est le genre de sujet, la façon de les traiter.
C'est de la façon de les traiter. Parce que je pense que c'est des sujets qui pourraient être intéressants, mais c'est traité exactement comme si tu écoutais RDI toute la journée. Et puis, on essaie aussi... Non, en tout cas, comme je te dis, je ne dois plus être le public cible, mais je pense pas, hein, ils veulent pas nous avoir, nous autres, là. Mais non, j'ai décroché de la radio. La télé, je commence à laisser des choses aussi.
Qu'est-ce que tu regardes à la télé, surtout?
Oh, moi, racontez-moi des histoires, tu sais. Mais je vais écouter des téléromans, je vais écouter des documentaires, je vais écouter... Mais,
en écoutes-tu sur des réseaux privés comme Netflix, par exemple, ce genre de choses, non?
Pas du tout, non.
Les médias sociaux, en général, tu touches à ça ou pas?
J'écoute. Je suis sur Facebook, mais juste pour... je transfère juste des... Je mets pas d'opinion. Je fais juste des pensées ou des... rapidement un peu chaque jour, là, mais je m'embarque pas sur grands débats. Ce qui m'interpelle beaucoup dans le moment, c'est ma petite fille. Je vois pas mon fils, mais sa fille la plus vieille, qui ne vit plus avec lui, qui a 17 ans maintenant, je trouve qu'elle mérite d'être écoutée. Je trouve que j'aime voir ce dans quoi elle évolue. Elle a passé son été à Natashquan, elle a travaillé dans le tourisme et elle a adoré ça, puis elle espérait voir Vigneault, écoute. Puis elle a, elle vit dans un autre monde que le mien. Mais moi, par rapport à elle, j'ai besoin de plus de l'écouter que de lui prodiguer ce que c'est que moi je pense. Je vais lui dire ce que je pense. Parfois, on dit « Ah, j'avais pas pensé à ça ». Mais c'est intéressant de la voir aller. Elle s'en va en cinéma, qu'elle dit, là, mais on verra. Mais au niveau...
Est-ce qu'il y a des choses... On parle des fossés de génération, on parle de grand-mère à petite-fille. Là. Je connais aussi ce genre de relation-là.
Oui, oui, oui.
Quoique mes petites-filles sont... c'est des bien grandes filles maintenant.
Oui,
bon.
Oui.
Est-ce que tu sens le fossé de génération? Prenons un exemple. Le tatouage.
Oui, bien là...
S'ils ne sont pas tatoués, là, ils n'existent pas.
Oui, bien, elle n'a pas. Fait que pour l'instant. Oui, ça va... c'est dérangeant. Mais que veux-tu? En tout cas, elle en a pas. Mais le fossé des générations, c'est beaucoup. On discutait l'autre fois le transgenre et tout ça. Ce que je comprends plus ou moins, je trouve qu'il y en a beaucoup. Elle n'ose pas me prendre de front, là, mais elle me dit, ah, oh, ben, tu sais, grand-maman, je m'en pose des questions là-dessus parce que je ne suis pas sûre. Puis, elle est de son temps aussi, tu sais, comme elle est allée voir Safia Nolin. Elle dit, je le sais que c'est des chansons tristes, tout ça, mais entre les chansons, elle est drôle. Je dis, faut être solide pour. Mais. Elle commence à ruer d'un brancard. Là. Je le vois par. Je la suis sur Instagram. Elle met des photos assez fofolles et assez. Bon, là, je me dis, elle s'en va vers un moment qui va être plus difficile pour sa maman, probablement. Là. Elle s'en va au cégep, là. Et puis, je sens qu'il se passe des choses.
Est-ce que tes valeurs à toi, au bout d'une vie, t'es pas au bout de ta vie, mais t'en as fait un bon grand bout,
Oui.
Après 70 ans, est-ce que tes valeurs ont changé beaucoup au cours de ta vie avec toutes ces épreuves que t'as subies?
Bien, mes valeurs, c'est la loyauté, c'est l'intégrité. Pour moi, ça, c'est important. Est-ce que mes valeurs ont changé? Non, il me semble que je suis restée...
C'est assez fidèle à tes...
Je suis restée fidèle.
Tes convictions.
Bien, c'est-à-dire que je me rapproche de plus en plus de ce que c'est que je peux être essentiellement, tu sais. Oui, il y a des valeurs au niveau du paraître que je me détache de plus en plus. J'ai horreur maintenant des gens qui disent qu'ils connaissent des gens. Et puis que
le name dropping.
Oui, je ne suis plus capable. Et Dieu sait qu'il y en a encore autour de moi. Tu sais, et je me.
Mais les médias en sont pleins, c'est des vedettes qui interviewent des vedettes.
Je ne suis pas ça, je ne suis plus capable. Et au niveau des médias aussi, ce que je suis plus capable, c'est que on ne cherche que le vedettariat. On ne cherche que le pareil. On ne va pas en profondeur. Garde la voix. La voix. Tu sais. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on à mon avis. Ben, où je suis complètement hors de mon temps, mais c'est pas comme ça qu'on devient.
Grande chanteuse.
Un grand chanteur. Qui, tu sais, je pense. J'ai rencontré. Comment il s'appelle, là? Richard Séguin. On devient pas Richard Séguin en passant par la voix.
C'est sûr.
Tu comprends? Justement, avec la chorale, on est allé dans son village deux fois pour chanter là-bas parce que c'est un Saint-Venant-de-Paquette, c'est tellement beau. Mais quand je vois tout ça, on ne devient pas Gilles Vigneault en passant la voix. On devient. Mais est-ce que maintenant c'est ça le chemin? Je ne le sais pas. Je me permets de dire que je ne le sais pas.
Après 70 ans, est-ce que tu rêves encore à un compagnonnage, j'ose pas dire l'amour, mais à une amitié avec un homme, un partage avec un compagnon? Tu rêves encore de ça, oui?
Ben, rêver, mettons que j'ai deux pieds. Oui, si ça arrivait, j'ai de l'ouverture, mais tu sais, à 70 ans, tu fais pas tourner les têtes, là. C'est fini, ça. Ça n'a jamais été dans mon cas non plus. Mais, oui, j'apprécierais, oui. Oui.
Est-ce qu'il te reste des grands rêves non réalisés? À part retourner à Paris, là.
Écrire. Mais je suis pas capable.
T'es sûr?
Pas mal sûr.
Il me semble que parler comme tu nous parles dans cette émission, ça peut s'écrire aussi, c'est drôle.
Oui, mais ça c'est le rêve que je ne parviens pas à concrétiser. Et c'est une grande déception. Écrire, ça me vide aussi intérieurement. Je ne sais pas si tu comprends. C'est physique, hein? C'est fatigant, écrire.
Mais ça fait du bien aussi.
Oui, mais j'ai l'impression toujours de tourner en rond, de ne pas être capable de sortir de... Par contre, ce que je lisais dans la biographie de Marcel Sabourin, c'est que lui, il dicte, il écrit pas. Ça me travaille. Ça, c'est la... Puis je me dis, bon, à mon âge, là, franchement, là...
Ben, il te reste à dicter.
Peut-être.
Merci, Roxane Beauchamp.
Merci.
C'était l'aventure, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, Robert Blondin ici, à la semaine prochaine.